Voilà, très heureux d'être là parmi vous cette matinée. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le Seigneur est là, hein, il est au milieu de nous. Amen. Et, on a pu le constater, il y a de la ferveur qui est là, une ferveur qui est bonne, hein, pouvoir communiquer ce bouillonnement qu'il y a dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a sauvés, il nous a délivrés. Amen. Et le peuple de Dieu, il est heureux. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Voilà, je me présente. Hein, donc, mon prénom, c'est bien Alex. Hein, voilà, ce n'est pas un diminutif d'Alexandre, c'est bien Alex Navarlas, pasteur à Carpentras. Voilà, depuis 5 ans, ça fera 5 ans cet été. Heureux de servir le Seigneur là où nous sommes. Et on voit, comme un peu partout, des personnes se donner au Seigneur. Et c'est tellement beau de pouvoir contempler l'œuvre que seul Dieu est capable de faire. Amen. Que son nom soit béni. Et vous savez, quand on a ce privilège d'être invité à droite et à gauche, moi, ce qui me plaît, c'est que de savoir, de rencontrer, alors de voir quelques personnes que l'on connaît, hein, familières, on se connaît certaines depuis quelques temps, et puis faire la connaissance de nouvelles personnes, frères et sœurs en Christ, alléluia. Et ça me fait penser qu'on va se retrouver là-haut. À là-haut, ça va être extraordinaire. Hein. Amen. Et je crois qu'on va chanter, je vais vous le dire, hein, je crois qu'on va chanter un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Alléluia. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'on est, on appartient à la famille du Seigneur et que Dieu nous bénit. Amen. Alors, quand Emmanuel m'a sollicité pour pouvoir être avec vous ce matin, on se place devant Dieu, hein, parce qu'il y aurait tellement de sujets sur lesquels partager. La parole de Dieu est une source inépuisable. Et donc, notre responsabilité en tant que prédicateur, c'est de nous placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple ? C'est ça le plus important, hein, donner la parole de Dieu. Alors, les prédicateurs, hein, ils vont reconnaître ce fameux moment où on se dit, ça y est, ma prédication, elle est bien ficelée, j'ai la pensée de Dieu, et puis au dernier moment, le Seigneur dit, bon, t'as bien travaillé, mais c'est pas ça. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé, mais c'est toujours bon parce que le Seigneur, il nous aide. Amen. Alors, quand on donne notre vie au Seigneur, alors, on marche, on rentre dans une marche avec le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que non seulement la parole de Dieu nous encourage à marcher avec lui, mais non seulement marcher, mais également courir. Et ça sera le thème du partage de ce matin. Mais courir, pas n'importe comment. Courir pour gagner. Alléluia. Courir pour gagner, dont nous sommes tous appelés à courir. Et j'ai regardé, j'ai tapé tout simplement sur Google, comme on fait maintenant tous, d'ailleurs, un verbe qui est sorti, googliser, on googlise un peu tout. J'ai regardé les bienfaits de la course. Et les bienfaits de la course, quels sont les bienfaits de la course à pied ? Ça permet d'améliorer la condition physique des organes indispensable à la vie, comme le cœur, le poumon, les artères ou encore le foie. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, mais on a besoin de tout cela. Le cœur, notre histoire avec le Seigneur, c'est une histoire de cœur à cœur. Notre cœur a été bouleversé, transformé, changé à un moment donné par le Seigneur. Et désormais, il y a un amour qui est là, qui a été déposé par notre Dieu. Amen. Le cœur, le poumon, il y a cette respiration de l'être, de la part de notre Seigneur. Amen. Et également, évidemment, la foi, cette analogie avec cette foi, cette assurance avec le Seigneur, que le Seigneur, il est près de nous, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est toujours près de nous, dans les moments où tout va bien. Et ça arrive, merci Seigneur. Puis il y a des moments un peu plus difficiles. Mais dans ces moments difficiles, Dieu est toujours là, il est en contrôle, il n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Alléluia. Alors, juste, je vous fais la confidence. Hier, je me suis levé hier, passé une très mauvaise nuit, et je me suis dit, non, c'est pas le moment d'être malade. Pas le moment, alors la gorge un peu, qui gratte, mais ça va aller, hein, avec vos prières, ça va aller, gloire à Dieu. Donc, nous sommes exhortés à courir, et c'est bon pour chacun d'entre nous de courir, mais pas n'importe comment, on va le voir. On va ensemble méditer sur un seul verset. Un seul verset qui va nous servir finalement de socle au travers de ce partage. Ce verset, vous le connaissez sûrement. Il se trouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 12 et le verset 1er. Voilà, hein, les lecteurs assidus de la Bible que vous êtes, vous avez déjà le verset. Oui, merci. Oui, il fait chaud, hein, sous les sunlights. Voilà. Alors, Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est cette partie qui nous intéresse, évidemment tout le verset, mais cette partie en particulier, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Que Dieu soit béni. Amen. Pourquoi courir dans ce passage? Nous sommes donc exhortés, encouragés, conseillés de courir, mais pas de n'importe quelle manière. Courir, pourquoi? Tout d'abord, quand on lit ce verset, il dit, nous devons courir parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et quand nous lisons, nous donc aussi, c'est la petite liaison où il nous faut revenir en arrière. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où là on découvre que c'est un chapitre tout entier sur la foi. Et au travers de la foi, il y a des témoins qui nous sont là présentés, des héros de la foi, lequel nous devons nous inspirer. Merci Seigneur, parce qu'il y a eu des hommes, des femmes de Dieu remarquables, dans lesquels nous devons nous inspirer. D'autres, pour notre également connaissance, on doit également voir leur vie, des fois des choses qui nous dépassent, mais qui concernent le Seigneur. Donc, on est environné, on court à cause de l'environnement, parce qu'il y a des témoins. Et le terme témoin, ce terme peut signifier un témoin juridique dans un tribunal. On témoigne de quelque chose. Quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu. Et nous sommes tous des témoins de la grâce de Dieu. Et si nous sommes là ce matin, si moi-même je suis debout ce matin, c'est parce qu'un jour, la grâce de Dieu m'a été accordée, une faveur particulière. Pas parce que j'étais le meilleur, sûrement pas. Sûrement pas. On dirait que Dieu se plaît à sauver les pires. Là, je parle de moi. Merci Seigneur parce qu'il le fait. Et alors, on est devenus des témoins. Et on raconte partout à tous ceux qui veulent l'entendre ce que nous avons vu, ce que nous avons connu ou ce que nous avons expérimenté. Et on a expérimenté donc cette grâce qui nous a bouleversés de l'intérieur. La grâce de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Elle bouleverse de l'intérieur. Combien de fois, moi-même, dans ma propre vie, j'ai essayé de me changer. À partir de demain, vous connaissez cette fameuse formule, à partir de demain, je vais perdre 5 kilos. À partir de demain, je vais me remettre au sport. À partir de demain, je vais faire ceci et cela. Et puis, on s'aperçoit que c'est un peu plus difficile que ce qu'on avait pensé. Et si on n'a pas cette mentalité, cette force de caractère, alors il peut arriver que on se dise, bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Mais que le Seigneur nous aide vraiment à être ces témoins efficaces. Amen. Quand on lit dans donc Hébreux chapitre 11 et ses témoins de la foi, j'aimerais m'arrêter sur deux personnages. Et le premier de ce personnage, c'est Abel. Abel qui a fait une offrande au Seigneur qui était plus excellente que celle de son frère. Alors, je me confie un peu à vous. Bon, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Alors, voilà, les passages et les histoires dans la parole de Dieu, je les ai connus depuis ma tendre enfance. Et je trouvais assez injuste cette partie-là. Personnellement, je me disais, mais quand même, Abel, il arrive et lui, il donne son offrande. Et puis, l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Mais pourquoi? Je ne comprenais pas. Pourtant, il a donné ce qui me semblait, moi, voilà, une certaine offrande. Il a fait ce qu'il a pu. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Mais quand on lit dans la parole Genèse 4, verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et quand on voit dans l'étymologie du mot, en hébreu, le mot veut dire, alors évidemment, je n'ai pas l'accent, et ça veut dire miketz yamim, qui veut dire des fruits de fin de saison. Et là, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, en fait, il a offert au Seigneur tout ce qu'il ne voulait pas. Des fruits de fin de saison, même des fruits un peu qui ont été un peu touchés de fin de saison. Alors là, cette histoire nous montre que Dieu veut qu'on lui remette la primauté de toute chose et qu'il soit au centre de toute chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Souvent, on essaye et on veut les choses par-dessus, mais il y a un ordre qui est établi. C'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et c'est là où j'ai compris que finalement, c'est pour ça que Abel, son offrande a été agréée, et pas Caïn. La réaction, s'il s'était humilié, Caïn, il aurait reçu le pardon de sa réaction. Vous le savez, le premier meurtre, c'est là où ça va arriver, c'est quelque chose de terrible. Mais Dieu approuve vraiment le cœur sincère, le cœur qui ne regarde pas, qui n'économise pas pour autre chose, mais qui veut honorer le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que il fait partie de cette lignée Abel, donc des hommes de foi, parce que son offrande a été plus excellente. Il a fait confiance au Seigneur. Amen. Quand on parle de foi, on ne peut pas s'empêcher de penser à Abraham. Abraham, le père de la foi, je dis, Abraham, il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Si on s'arrête là, on se dit, mais il reçoit un appel. La Bible ne nous dit pas dans quelles circonstances c'est arrivé. Est-ce que c'était une voix audible, une voix intérieure ? Voilà, la Bible ne nous le dit pas, mais en tout cas, il a vécu une expérience extraordinaire. Il a reconnu que c'était la voix de Dieu. Quand Dieu parle, c'est indéniable. Dans nos cœurs, il n'y a pas de place au doute. Quand Dieu parle, on sait que c'est pour nous. Donc, il a reçu cet appel, et il a obéi et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et Dieu voulait dire, tu sais, voilà, je vais te bénir, tu seras une source de bénédiction. Si vous lisez le verset, vous allez vous apercevoir qu'il y avait de quoi à ce que les chevilles elles commencent à enfler s'il avait eu une mauvaise réaction. Mais en tout cas, il a gardé un bon état d'esprit, un bon état de cœur, et il est parti. Alors, quand il a reçu cette parole du Seigneur, il me semble le voir, on peut l'imaginer, la Bible ne le dit pas, mais on peut l'imaginer en train de revenir dans ce moment avec le Seigneur, il reçoit une parole de Dieu pour partir, il en est pleinement convaincu, et là, il rentre chez lui, et là, il doit l'annoncer à sa femme. Il a dû commencer à lui dire, mais tu sais, le Seigneur m'a parlé. Ah bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais il t'a dit qu'on doit partir, que nous devons partir. Mais partir, mais pour aller où ? Et c'est là, il nous semble le voir. Hein. Mais écoute, je ne sais pas. Quand même, on s'aperçoit qu'il a eu une force de persuasion assez convaincante, parce qu'il est dit que sa femme, avec voilà, avec sa famille et son neveu, ils sont partis. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a mis tout son espoir et son espérance dans notre Seigneur. Alléluia. Il est parti et donc il a reçu pour récompense qu'il a été, il est appelé le père de la foi, une confiance. Amen. Et ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Donc, cette nuée de témoins, on aurait pu parler de Moïse, toute cette liste, le temps nous manquerait ce matin. Mais c'est un encouragement à chacun d'entre nous à tenir ferme, alléluia, à garder cette foi au fond de notre cœur qui est tellement essentielle. Pourquoi ? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous, ce que nous désirons, c'est être agréable à Dieu, c'est-à-dire une confiance absolue dans notre Seigneur. Alléluia. Donc premièrement, pourquoi courir ? On court à cause de l'environnement, de tous ces témoins qui nous encouragent à poursuivre, à aller de l'avant, parce qu'il y a un ennemi qui est là, plusieurs ennemis, hein, même hein, Satan, moi et le monde, qui est là pour essayer de nous décourager, mettre des obstacles, nous empêcher de courir. Donc premièrement, on doit courir à cause de l'environnement. Et ensuite, courir en rejetant les fardeaux. On l'a lu hein, ensemble. Rejeter tout fardeau. Quand on parle de fardeau, il est impératif que je puisse vous dire que fardeau n'est pas péché. Pourquoi ? Parce que juste après, il le dit. Il y a une différence entre péché et fardeau. Donc le fardeau n'est pas péché. Et ce fardeau, on doit le rejeter. C'est quoi rejeter quelque chose ? C'est un acte volontaire de notre part. C'est pas à un moment donné, ça va me tomber dessus, la providence de Dieu. C'est à un moment donné, je décide de rejeter le fardeau. Et les fardeaux, ils sont là, sur nos épaules, pour nous accabler, nous empêcher de courir vite. Parce qu'on doit courir, mais courir vite, se débarrasser de tout ce qui est inutile et gênant. D'ailleurs, à l'époque, les premiers Jeux Olympiques, ceux qui couraient, il courait nu. Pour nous, aujourd'hui, ça serait choquant. Hein. On prendrait les athlètes, vous allez bien voir, camisole de force, et directement enfermé. Courir tout nu, c'est parce qu'en fait, ils voulaient se débarrasser de tout ce qui pouvait les empêcher de gagner la course. Et nous-mêmes, nous devons nous débarrasser, rejeter. Et c'est dans cet état d'esprit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais on doit rejeter certaines choses. Certaines choses, on ne doit pas les accepter parce qu'elles sont là pour alourdir la marche et finalement nous regarder sur ce qui est inutile et même qui peut nous gêner pour courir. Imaginez-vous si aujourd'hui, là aussi, il faut avoir la tenue pour courir et pour bien courir. Aujourd'hui, si je vais courir comme ça, je pourrais courir à une certaine allure, je vais me fatiguer parce que je n'ai pas la panoplie qui va bien. Mais le Seigneur, il veut nous équiper. Et il nous équipe quand on vient près de lui. Et Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ta grâce. Et enlever, rejeter tout ce qui peut nous handicaper dans cette course que nous faisons quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Un fardeau, c'est quoi ? Vous savez, la parole de Dieu, elle est simple. Des fois, on doit réfléchir, méditer sur certaines choses. La parole de Dieu, c'est merveilleux parce que quand on la médite, le Seigneur nous donne son Saint-Esprit pour nous éclairer. Amen. Le Saint-Esprit ne sert pas qu'à un moment donné, juste simplement parler en langue dans une réunion. Si on le fait, ben, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Le Saint-Esprit, c'est pour nous conduire dans la vérité. Alléluia. Et le Seigneur va le dire, ta parole, dans l'Épître de Jean, ta parole est la vérité. Un fardeau, c'est quoi ? C'est un encombrement. Un fardeau, c'est une charge. C'est ce qui interfère sur le chemin. C'est ça, le fardeau. Alors, les fardeaux, nous devons les identifier pour mettre le doigt dessus afin de pouvoir les déposer. On va le voir un peu plus loin. Ces fardeaux, nous devons les rejeter, non seulement les rejeter, mais les déposer aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui saura ce qu'il faut en faire. Amen. Identifier les fardeaux. Peut-être, et ça arrive aujourd'hui de plus en plus, le bien-être matériel. Ça peut devenir un fardeau. C'est rien, hein, y a rien de mal dans ces choses-là. Même dans un fardeau, enfin, dans ce que je vais énumérer ici, y a certaines choses qui ne sont pas mal. C'est quand ces choses prennent toute la place. C'est là où ça commence à être compliqué. Le bien-être matériel. Un jour, ça vous est arrivé aussi, vous savez ces fameux coups de téléphone intempestifs où on veut vous vendre toutes sortes de choses. Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire... Oui, vous avez gagné, je ne sais plus, un week-end ou une semaine, voilà, dans une thalasso, c'est pour le bien-être. Je dis, madame, je vous arrête. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais de quelle manière je vais bien. Elle était morte de rire parce que sûrement qu'elle n'a pas trop entendu de personnes lui répondre ça. J'ai dit, mais je vous promets, elle rigolait, je vous promets que je vais bien, il y a une raison pour ça. Et là, quand on commence à leur parler ben, du Seigneur, elle dit, bon, oui, c'est bien, excusez-moi, mais bon, et ça a raccroché. J'ai dit, bon, on a tenté. Le bien-être, aujourd'hui, vous allez voir, vous allez remarquer qu'un peu partout, on va nous proposer le bien-être. Pourquoi on propose le bien-être? Parce qu'il y a un mal-être qui est en nous. Un mal-être qui est dans le cœur de l'homme. Et il n'y a que le Seigneur qui est capable d'enlever ce mal-être pour nous donner la joie de vivre. Un croyant qui est né de nouveau, il a la joie de vivre. Il a le sourire. Et quand il rentre dans le hall, ça je le dis à Carpentras, quand il rentre dans le hall, déjà il y a le visage qui rayonne et on voit toutes les belles dents, bien blanches. Alléluia. Moi, je leur dis, faites-moi voir vos belles dents quand vous rentrez. Vous savez que le contraire aussi, hein, on le voit. Hein, ceux qui ont bu du jus de citron le matin, vous savez le jus de citron, ce que ça fait. Quand on boit du jus de citron, certains disent, aïe, 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 aïe. Et des fois, on s'oblige. Alors ça, vous ne le direz pas. Hein. Bon, il y a quelques-uns de Carpentras, mais on fera un contrat avec elles. C'est que des fois, hein, chez certaines personnes, vous savez comment on fait d'habitude ? On demande « bonjour » et la suite, c'est « ça va ?» Vous savez, certaines personnes, il ne faut pas leur dire, il ne faut pas leur demander. Hein. « Bonjour, ça va ?» parce qu'après, vous allez voir tout le listing. Voilà, j'ai la rate qui se dilate. La tête, ça ne va pas trop. Et puis le coude, et puis ceci, et puis cela. Des fois, c'est des choses justes. Mais il n'y a jamais une parole de foi. Une parole qui dit, ben, OK, ces choses, elles sont là, mais je veux m'attendre au Seigneur qui est grand, qui est puissant, qui est capable ben, d'intervenir quand il le voudra. Amen. Donc, être dans le bien-être matériel, c'est être absorbé par, je ne sais pas, les soucis de maison, de voiture, même nos projets de retraite. Alors là, toute notre vie, hein, quand on a économisé et qu'on peut prendre cette fameuse retraite, il y a toujours une période. Alors je ne sais pas avec Emmanuel, bien sûr, il a pu le constater, mais c'est que les nouveaux retraités, à un moment donné, c'est ça y est, j'y suis arrivé, maintenant, qu'on me laisse tranquille. Et des fois, il faut aller auprès d'eux. Quelqu'un m'a dit, nouvellement retraité, là, il n'y a pas si longtemps, « j'ai pas le temps ». Waouh. J'ai pas le temps. Bon, ok, j'ai pas le temps. Bon, il faut qu'on discute un peu plus quand même. J'ai pas le temps. Pas le temps, comment ? Bon, enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut être absorbé par ces choses-là. Merci Seigneur parce que nous vivons en Occident. Nous sommes bénis quand même. Au niveau matériel, nous sommes bénis. Mais attention de ne pas faire de cette bénédiction quelque chose qui peut se retourner contre Dieu. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est arrivé déjà. Vous vous rappelez quand le Seigneur suscite un libérateur dans la personne de Moïse ? Le Seigneur le suscite. Alors, on passe sur l'appel. Puis, quand ils partent, j'aime bien les petits détails dans la parole de Dieu. Parce que quand ils partent avec les richesses que Dieu leur a données, les richesses des Égyptiens. Alors, Dieu les a bénis avec les richesses des Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avec ces mêmes richesses, ils ont fait un veau d'or. La bénédiction, si elle nous absorbe, ben, peut devenir une idole. Donc être vigilant à ne pas poser vraiment et être absorbé par cela. Identifier les fardeaux tels qu'une passion. Alors là maintenant, actuellement, je n'ai plus la patience pour regarder un film. Une heure et demie, pour moi, c'est trop. J'ai plus la patience. Alors heureusement qu'il y a la fameuse zapette pour avancer. Alors évidemment mon épouse n'est pas trop d'accord parce que vous gardez le suspense. Moi par exemple quand je lis un livre je regarde toujours la fin. Je commence par la fin parce que je veux savoir comment se termine l'histoire. Bon c'est comme ça. Priez pour moi. Voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais en tout cas, même une passion. Vous savez, regarder un film, encore, ça dépend ce qu'on regarde, hein, évidemment, un film, on va dire, correct. Voilà, si on ne fait que ça, à un moment donné, il va y avoir un souci. Évidemment, Internet, le sport. Ça ne se voit pas comme ça, mais à un moment donné, j'ai fait du sport. Oui, hein, j'ai fait du sport. il y a bien longtemps, vous le remarquez, voilà, hein, j'ai fait du rugby, et donc, eh bien, ça me prenait tout mon temps. Je faisais 5 entraînements par semaine, le match le week-end, et donc on était pris par cela. Alors on n'avait pas le temps hein, pour les autres choses, mais faire du sport, évidemment, il y a même la Bible qui l'encourage à prendre soin de notre corps. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Finalement, un chrétien, c'est quoi ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est équilibré. Mais vous remarquerez qu'avec moi, que l'équilibre, il n'est pas si facile. Parce qu'on aurait tendance à pâcher d'un côté ou de l'autre. Essayez de prendre un ballon, voilà, de baudruche, là, de le gonfler, de le faire tenir sur votre doigt en équilibre. Eh bien, dès qu'on va bouger un peu, hop, ça va pencher. Mais le Seigneur, il va nous aider, amen, à être des personnes équilibrées, alléluia. Et nous demandons au Seigneur, Seigneur, ce que nous voulons, c'est être équilibrés, alléluia. Donc, identifier les fardeaux, les passions, préoccuper également, et ça, aujourd'hui, il faut le dire. Et particulièrement chez les jeunes. Il y a ce phénomène d'être préoccupé, et ça peut devenir un fardeau, par ce que les autres pensent de nous, les apparences physiques. Il y a certains idéaux de filles. Une jolie fille doit être comme ça. Aujourd'hui, on va nous dicter comment voilà, la beauté, ce qu'elle peut représenter. Mais en fait, ce n'est pas ça. Hein. Parce que si on met tout sur l'apparence physique, mais le Seigneur, il dit qu'il regarde lui où ? Au cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être touché. Amen. On aurait pu parler finalement de fardeaux tels que les inquiétudes. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais la suite nous dit qu'il y a une parole de Dieu hein, et, hein, qui est là pour relever. Les soucis. Qui n'a pas de soucis ce matin ? Si quelqu'un n'a pas de soucis, on va le faire venir ici, on va le prendre en photo, hein, on va mettre un poster pour dire « Voilà la seule personne en France qui n'a pas de soucis. » On a tous des soucis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on avance avec le Seigneur ? C'est parce que nous avons appris à compter sur la grâce de Dieu et à laisser nos soucis au pied de la croix. Ce n'est pas chose facile. Hein. Parce que souvent, nous... quand on lit certains versets, on pense que ça va être dans la facilité. Ce n'est pas facile, mais c'est un choix. Amen. Donc, ces soucis qui sont là, les craintes, la peur du lendemain, la peur de la mort, peur de certaines choses, les craintes, les phobies, c'est ça, hein, les laisser au pied du Seigneur. Voilà, ça, ce sont une liste de fardeaux, on aurait pu en trouver d'autres. Toutes ces choses peuvent devenir une nuisance dans notre course au service de Dieu. Parce que Dieu nous veut serviteurs de sa personne. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de chômage. Le Seigneur nous appelle, chacun d'entre nous, à le servir avec nos moyens, évidemment. Mais le Seigneur, il va toujours utiliser, vous savez quoi ? Pas forcément des gens qualifiés. Il va se servir de gens disponibles. Dire, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Mais ce que j'ai, ce que je suis, je te l'apporte. Sers-toi, Seigneur de moi. Le Seigneur, il va le faire. Alléluia, il le fait, évidemment. Ce sont autant de fardeaux que Dieu nous invite à déposer à ses pieds afin d'en être affranchi. Quand on parle de fardeaux et de soucis, il y a ce verset de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, qui vient, qui nous dit « Et déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur, de tous vos soucis. » J'aime beaucoup le mot « tout ». De tous vos soucis, le moindre de tes soucis, déchargez-vous sur lui. Alors, je ne sais pas comment vous voyez l'image de se décharger. C'est en fait, c'est de venir auprès du Seigneur et moi-même de déposer ces choses en disant « Seigneur, je ne le veux plus. Il y a une action de ma part. Il y a quelque chose qui m'incombe à moi. » Je me souviens de quelqu'un qu'on a suivi, qu'on a accompagné, qui essayait de venir me voir pour que je lui dise quelque chose de nouveau. Tu as une parole pour moi. Et moi, la seule chose que je lui disais, mais en fait, viens, va dans la présence du Seigneur et le Seigneur, il va t'aider. On est simplement, nous, que des panneaux indicateurs. C'est ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et j'aime beaucoup la suite du verset qui dit, car lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Ça, c'est une parole d'encouragement ce matin. Il va prendre soin de chacun d'entre nous. Il faut savoir que quand on parle de fardeau, il y a certains fardeaux qu'on doit se décharger, les déposer. Par contre, quand on vient au Seigneur, le Seigneur dépose un fardeau dans nos cœurs. J'espère que dans chacun d'entre nous, il y a le fardeau pour les perdus. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Merci Seigneur pour le temps, ce matin que nous avons. J'ai vraiment, je vous le répète, j'ai beaucoup apprécié ce temps de louange. Mais l'Église, évidemment, ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a des temps de louanges, mais il y a un temps où l'Église, elle doit être au milieu, et j'aime beaucoup, dans le quartier où vous êtes, dans un endroit où l'Église est appelée à briller. Et nous savons que l'Église, c'est chacun d'entre nous. Si ce matin, on aurait eu quelques soucis, on s'était réunis dehors, avec des parapluies, certes, mais si on s'était réunis dehors, alors nous serions encore l'Église. Parce que c'est les pierres vivantes que nous sommes, nous formons l'Église de Christ. Et vous savez quoi ? L'Église est indestructible. Jésus va dire, je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais l'ennemi, il essaie quand même de déstabiliser. Encore hier, il y a des amis qui sont dans le centre de la France qui m'appelaient pour me dire, on s'occupe d'une petite œuvre et une division est passée par là. Quand ça marche, c'est là où il faut être vigilant. Quand ça fonctionne, dans des endroits, l'ennemi le sait et il n'est pas content. Il y a toujours quelqu'un qui pense autre chose et puis qui va venir semer, délivrer. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Mais quand on vient au Seigneur, le Seigneur met ce fardeau dans nos cœurs pour les âmes et on tombe à genoux en disant « Seigneur, sauve ! Sauve, Seigneur ! Tu es capable de sauver par un grand nombre comme par un petit nombre. Amen. » Mais le fardeau du Seigneur, il est léger. Ce n'est pas un fardeau qui est pesant. Amen. Donc on a vu que de rejeter tout fardeau est le péché. Ce péché qui est le mal, c'est l'offense faite à Dieu, la violation de la loi divine. Et donc, c'est-à-dire, à un moment donné, donc, ce péché, il est là, prêt à nous assiéger. Et c'est dans ces circonstances où l'auteur va dire de rejeter le fardeau qui nous enveloppe. Il va essayer de nous envelopper. Et donc, ça veut dire également facilement, aisément, à cause de quoi ? À cause de notre héritage adamique. On a hérité d'Adam. On n'a pas hérité que le meilleur. On a hérité de cette nature pécheresse. Vous avez remarqué que quand il y a des enfants, on ne leur apprend pas à faire le mal ou à mentir. Et on s'aperçoit que finalement, c'est ce qu'ils vont faire assez rapidement. Parce que cette nature est là. Et ce péché essaie de nous envelopper. Il y a l'apôtre Paul qui va dire, mais moi je trouve cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et puis, il va pousser comme un cri. Un cri, il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et on sait que qui est capable de nous délivrer de ce corps de mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui nous a libérés. Il nous a rendus libres, amen, de ce péché, amen. Avec le péché, ce qu'il ne faut pas transiger, il ne doit pas avoir sa place dans nos vies. En fait, avec le péché, c'est tolérance zéro. Le péché couche à ta porte. Mais toi domine sur lui, dira le Seigneur, ce péché qui est là, mais nous avons été libérés à la croix du calvaire. Il nous a rendus libres. Aujourd'hui, certains croyants, alors qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, vivent encore en esclave. À l'époque de la récession, je l'ai dit vendredi à Carpentras, à l'époque de la récession, l'esclavage vient d'être aboli. Mais la nouvelle, avant qu'elle se répande dans les endroits reculés, elle n'était pas encore parvenue. Et ça nous montre que ben, ces esclaves-là, ils étaient légalement libres et pourtant ils vivaient, ils continuaient à vivre comme des esclaves. Et des fois, les chrétiens, c'est un peu comme ça. On vit comme des esclaves alors que le Seigneur, à la croix du calvaire, nous a libérés. Il y a un passage qui nous dit qu'il a pris l'acte qui nous accusait. Il l'a détruit. Et donc, plus personne ne peut nous condamner. Plus personne, même pas nous. Parce que souvent, on aurait tendance nous-mêmes à nous condamner. Le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Nous, on peut se lasser. Hein. Une fois, deux fois, trois fois. Enfin, quand je dis trois fois, c'est peut-être le maximum que l'on puisse faire. Mais Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Et autant qu'on reconnaisse notre problème et notre difficulté, le Seigneur vient pour nous pardonner. Et nous ne voulons plus vivre en tant qu'esclaves, mais nous voulons vivre en tant que libre, quelqu'un qui a été libéré. Par contre, l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres aux Romains, il va dire « Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n'importe comment, évidemment. Hein. » C'est, à un moment donné, il va dire également « Je suis libre, mais maintenant je suis devenu esclave de Dieu, esclave de Christ. » Le mot est fort. Hein. Quand il le dit, il sait dans quelles circonstances il le dit. « Esclave de Dieu. » Amen. Et si on n'a pas cette révélation, évidemment, on peut vite être emporté. Mais en tout cas, voilà, que le Seigneur nous aide à vivre cette liberté avec notre Seigneur. Alléluia. Alors, courir, comment? Il dit, mais courez avec persévérance. La manière de courir est tellement importante. Courons, ça exprime une action continuelle. Et quand on court, vous savez, on ne court pas n'importe où. On ne court pas comme battant l'air. On court parce que le trajet de notre course a été décidé par Dieu. Et lui, il sait où se trouve la ligne d'arrivée, nous pas. Mais lui, il sait. Alors nous, notre responsabilité, c'est simplement de courir avec persévérance. Le mot veut dire avec endurance, la persévérance volontaire. Le mot veut dire également, c'est une persévérance agressive. Pas dans le mauvais sens du terme, mais à un moment donné, voilà, une certaine volonté forte, également avec patience. Et c'est là où ça se complique. Je ne sais pas si vous êtes patient de nature, sûrement hein, au milieu de nous, certains sont patients. Bon, vous l'avez sûrement remarqué depuis tout à l'heure, vous m'avez cerné un peu. Voilà, c'est un domaine où le Seigneur, il a fallu qu'il travaille. Et quand je suis arrivé à Carpentras, il y a une sœur qui m'a dit au bout de quelques temps, « Frère, vous êtes d'une patience !» Elle ne s'imaginait pas que c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire à moi. Moi, patient, hein, Moïse, voilà, évidemment, on se connaît, pas de patience, mais la patience, la persévérance, un croyant qui va jusqu'au bout. Alléluia. Moi, je remercie le Seigneur pour les personnes du bel âge. Alors, c'est comme ça que je les appelle à Carpentras, hein, le bel âge. Parce que vous avez traversé des épreuves, vous avez traversé des difficultés, mais le fait que vous soyez là ce matin, c'est parce que vous persévérez, alléluia, à courir encore dans cette voie que le Seigneur nous a tracée avec persévérance. Alors il y a un secret pour y arriver. Et tout à l'heure, donc Emmanuel l'a dit dans une prière, le secret pour y arriver, c'est les regards, c'est la suite, donc Hébreux 12, 2, avec les regards fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas. Certains se rappellent peut-être pas de ce vieux chant, ce petit cœur. Les yeux fixés sur Jésus. J'aimerais vous dire que ce matin, il est possible de bien terminer la course. C'est possible avec le Seigneur. Amen. C'est vers lui qu'il faut regarder. C'est vers lui pour recevoir sa force. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Amen. Donc, les regards fixés sur notre Seigneur. Amen. Avec persévérance dans les moments d'épreuve. Je le disais tout à l'heure, quand il semblerait que tout roule, pas trop de difficultés, hein, mais dans les moments difficiles, s'appuyer sur le Seigneur. Ça, appuyez-vous sur les promesses de notre Dieu. Il est dit, courir avec persévérance dans une carrière. Carrière, c'est trajectoire qui est ouverte. Le mot, c'est courir vers cette guerrière. Le mot, c'est agona, qui a donné en français agonie, courir avec persévérance jusqu'à l'agonie. Amen. Et la détermination à courir signifie l'énergie nouvelle que nous recevons d'une source extérieure pour continuer à courir. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui s'est arrêté de courir. Peut-être qu'une seule personne, si le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir apporter ce message dans la simplicité, c'est parce qu'il veut vous encourager à reprendre la course, à relever la tête, alléluia, et à compter sur sa grâce. Amen. Cette carrière, j'aime beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, les petits détails, elle nous est ouverte. Chacun d'entre nous, on doit y rentrer. Amen. Deux versets en conclusion. Ésaïe 40, versets 30 et 31. Je suis sûr que ces deux versets vont vous encourager. Amen. Ésaïe 40, 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Il y a le mais de Dieu, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. En fait, c'est quoi l'explication de ce verset? C'est quelque chose de surnaturel, parce que plus on court, plus on va être fatigué, c'est normal. Mais c'est quelque chose de surnaturel, et ça me fait penser au prophète Élie, qui a été nourri par les oiseaux du ciel qui ont été envoyés par le Seigneur, alléluia. Et avec cette nourriture céleste, cette nourriture qui venait du ciel, il a marché combien de temps, dites-moi? Je l'ai entendu, 40 jours. Est-ce qu'il y a une barre énergétique aujourd'hui capable de nous faire marcher 40 jours, impossible, tout ça pour nous montrer que c'est quelque chose de divin. Quand on veut s'approcher du Seigneur, alors Dieu n'est pas un homme pour revenir sur ses promesses. Ses promesses, elles sont également pour chacun d'entre nous par répercussion. Ceux qui se confient en l'Éternel, la foi, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Et le second verset, c'est la conclusion à la fin de sa vie, l'apôtre Paul. Il va faire cette déclaration magistrale, merveilleuse, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Il nous donne ici ce vers quoi nous devons courir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Alors, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore aux croyants de l'Assemblée de Dieu de la Mosson. Amen. Alléluia. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Alors nous devons nous souvenir ici, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il fait une conclusion, il dit, mais j'ai achevé la course. Il y a une course à achever. Et quand il dit j'ai achevé la course, il est en train de dire, j'ai achevé la course en vainqueur. Vous savez l'adage de Pierre de Coubertin, ce n'est pas pour les croyants. L'important, c'est de participer. Non. C'est pour ça que le titre, c'était « Courir, mais pour gagner ». Alléluia. Et la victoire, elle est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Malgré nos faiblesses, nos fardeaux, les rejetés, évidemment, nous devons courir de toutes nos forces avec l'énergie que Dieu nous promet. Amen. Prions Dieu pour qu'il nous rende capables de nous débarrasser de tout fardeau qui ralentit notre course, et de tout péché qui nous fait tomber. Regardons à Jésus sans distraction dans nos vies. Acceptons les sacrifices et les renoncements pour amour pour lui. Alléluia. Alors, l'exhortation, elle est celle-ci pour chacun d'entre nous. Quelqu'un qui s'est arrêté de courir, revient dans la course. Reprends la course, parce qu'il y a une récompense pour chacune de nos vies. Alléluia. Vous savez, on ne court pas après des foules de personnes qui sont là, qui lèvent les mains. Ça, c'est au début du ministère. Hein. Au début du ministère, moi, je disais, j'imaginais, je vais prêcher la parole dans un stade de 120 000 personnes. Et je vais faire un appel. Bon, peut-être c'est prophétique, ça viendra, je ne sais pas. Hein. Mais les gens vont se lever, vont répondre tous, repentants. Ils vont chanter tel que je suis, sans rien à moi. Voilà. Mais en fait, si ce matin, ce message s'adressait qu'à une seule personne, eh bien, gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est un message d'encouragement pour qu'on puisse revenir dans la course. J'aimerais également encourager quelqu'un à rester dans la course. Peut-être qu'on a commencé à regarder ailleurs. Regarde au Seigneur, les yeux fixés sur notre Dieu, alléluia, pour rester dans la course et puis tout simplement terminer la course en vainqueur, alléluia. Et le Seigneur va nous y aider. On prie le Seigneur, amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, Seigneur. C'est un message qui nous encourage encore ce matin, comme tu sais si bien le faire. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui, à un moment donné de cette parole, de ce partage, s'est senti concerné, Seigneur. Toi, tu connais les cœurs, tu connais les sentiments, tu connais toutes choses, Seigneur mon Dieu. Tu connais toutes les situations de nous tous qui sommes ici présents. Seigneur, merci de travailler les cœurs, que chacun puisse comprendre qu'il y a une course à remporter. Il y a une course à terminer, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous sortions de ce lieu en disant, je veux reprendre la course et je veux terminer la course. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu dis que tu ne nous laisses pas, que tu serais avec nous, Seigneur, et que tu allais nous accompagner. À toi, nous seul, nous voulons donner toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen.